Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo ben Jorla, Zochon Alevracha. La question de
Ruben. Comment faire pour être guidé dans ses choix personnels?
De quel type de choix tu parles?
Tous les choix qui vont être indispensables pour les années à venir.
Tu parles du point de vue toraïque ou point de vue profane?
La Torah, mais nous, profane. En tant que juifs, on se tourne vers Dieu. Donc.
Tu hésites maintenant à faire dentaire ou avocat, par exemple?
Par exemple.
D'accord. Ou quoi d'autre? C'est ça la question, en gros, quoi?
Ouais.
Par exemple. Ok. Et t'as peur de te tromper? Qu'est-ce qui est meilleur? Alors, le problème, c'est que quand on pose cette question-là, qu'est-ce qu'on appelle se tromper, qu'est-ce qu'on appelle meilleur? Quelqu'un, comme ça dans la rue, meilleur, ben, t'as une meilleure paye. Ou t'as plus de temps pour kiffer. Y a moins d'impôts. D'accord, t'as pas un boss qui te casse la tête. Au contraire, quand t'es peut-être indépendant, t'as plus de casse-tête. C'est ça les critères de définition. La Torah ne parle pas du tout comme ça. La Torah, elle voit les choses dans leur profondeur et elle conçoit que tu es venu sur Terre dans un certain but, celui de te réaliser. Or, les cas qu'on ne se réalise pas dans le travail que nous avons, c'est un moyen de subsistance. C'est une malédiction. Le premier homme a été maudit. Tu mangeras à la sueur du pain, à la sueur de ton front. Alors, on est maudit. Il faut bosser pour manger. D'accord? Alors, il y en a qui prennent une petite malédiction, ils apprennent un petit métier en 6 mois, il y en a qui aiment faire un bac plus vite, d'accord. Plein de malédictions, d'accord.
On peut aimer,
hein?
On peut aimer, il y a des gens qui aiment leur travail, ils savent pas.
Oui, oui, d'accord, mais c'est ça le piège. Pourquoi je parle ainsi? Je comprends bien que les gens ne vivent pas les études et leur travail comme malédiction. Mais c'en est une, c'est ce que je viens de dire maintenant. Bien que tu aimes, et pourquoi tu aimes? Parce que ça t'amène de l'argent, après tout c'est intéressant, tu as un statut social, tu es quelqu'un, d'accord. Ça ne reste qu'un moyen. Et dans la majorité des cas aujourd'hui, l'immense majorité des cas, c'est un but. Dans la tête des gens, c'est un but. Depuis qu'ils sont nés, on les a formatés maintenant, tu dois réussir ta vie. C'est-à-dire avoir un bon métier. Ça veut dire quoi? Bon, tu as une bonne paye. Égal bonheur. Tu auras une femme bien, des enfants bien, une voiture bien, des vacances bien. Tu as réussi ta vie. Est-ce qu'un minimum aujourd'hui de jugeotes comprennent que rien à voir? L'argent ne fait pas le bonheur, et surtout aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais ce n'est pas le but. C'est un moyen, c'est une malédiction. Dieu a fait que maintenant, quand je suis sur Terre, je dois aussi m'occuper de mon corps et le faire vivre. Alors, il faut que j'ai de quoi m'habiller, de quoi manger, de quoi habiller ma famille, de quoi un toit, etc. Mais ce n'est pas le but. Les animaux, c'est leur but. Un animal, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il cherche de quoi manger, de quoi protéger sa famille, etc. Ok, mais ça ne sert à rien que Dieu nous donne une âme aussi grande, et Dieu se dévoile pour ça. On peut rester des animaux, allez, des super singes. Donc la Torah, elle dit, c'est pas ça réussir. Réussir, c'est te réaliser, et tu te réalises dans ton vrai but. Ton vrai but, c'est ton contact avec Hachem. C'est vraiment comme ça qu'on se réalise, et j'imagine que vous, à la Yeshiva, pouvez commencer à concevoir cela, que le goût de la connaissance d'Hachem, c'est quelque chose qui est plus grand que tout, qui est meilleur que tout. Connaître la Torah, connaître, être en relation, pouvoir prier Hachem, ressentir quelque chose dans la prière, étudier sa Torah, connaître sa Torah, le connaître lui-même. Le top niveau, ceux qui étudient après la Kabbalah, etc., connaître Hachem. D'accord, le Zohar dit que ceux qui connaissent Hachem, dans l'âme là-bas, ils vont où ils veulent, rien ne peut les arrêter, aucun ange, aucune barrière, aucun barrage. Ils connaissent Hachem, ils ont étudié. Bon, c'est des très hauts niveaux. Berat Hachem Hachar vient dans bientôt. La Kabbalah, elle va. Alors, Hachem lui-même, dans son entité intrinsèque, on ne va pas le connaître. Mais il s'est dévoilé. Et il veut être en relation avec nous, donc il veut qu'on connaisse son dévoilement, ce qu'il veut bien dévoiler de lui-même. Ça s'appelle les secrets de la Torah. Qui sont? Qui est-il? C'est quoi son nom? Yudke Vavke? Qu'est-ce que ça représente? Comment il agit, etc. La construction des mondes spirituels. Aujourd'hui, même en Kabbalah de haute voltige, c'est extrêmement extérieur. Mais comme Machar viendra très bientôt, comme Rav Benson avait expliqué un temps, il avait dit, aujourd'hui, ce qu'on étudie dans la Torah, même au niveau le plus profond, c'est l'extériorité de l'extériorité. C'est donc tu as l'intériorité de l'extériorité, tu as l'extériorité de l'intériorité, et tu as l'intériorité de l'intériorité. Comme Hachem viendra, on va tous étudier vers Hachem l'intériorité de l'intériorité. C'est-à-dire, tu rentres dans l'intériorité de l'intériorité de Hachem. Ah, c'est kiffant ça. Ça, c'est le but. D'accord ? Le but, c'est un peu messianique, mais nous, dans notre vie, tant que le Messie n'est pas venu, alors aussi, il y a une connaissance d'Hachem qui est quand même pas mal. D'accord ? C'est ça le but. Plus tu t'unis à Hachem, plus tu te réalises, plus tu amènes sur toi des parties divines qui te font être grand, te réaliser. Être. Le but, c'est être. Qui est Hachem ? Plus j'ingurgite du être de Hachem dans moi, plus je vais être d'amplitude divine. C'est ça le grand cadeau. Fantastique. On te dit maintenant, il y a les études. Alors, je réponds. Du point de vue de la Torah, réussir les études, ça veut dire ce qui te laissera les meilleurs moyens de réaliser ton but, qui est Hachem. Alors, ça peut être une meilleure paye pour avoir plus de temps disponible. Ça peut être peut-être une moins bonne paye, mais tu laisses plus de temps aussi. Moins de temps d'études, comme ça tu as plus de temps pour, en deux mots, pouvoir laisser du temps pour le service d'Hachem qui est spécialement l'étude. Voilà, ça s'appelle réussir. Bien sûr, il y a d'autres métiers très positifs par rapport à ces critères. Ils laissent beaucoup de temps et gagnent beaucoup d'argent rapidement, mais c'est de la magouille. Ça, c'est évident que c'est contraire à ce que Hachem veut, sur un métier qui soit honnête. D'accord ? Par exemple, on va parler du droit maintenant, entre le droit et dentaire. Alors, dentaire, il y a un danger, c'est les femmes. D'accord ? Je connais l'as des dentistes, d'accord, qui sont en contact avec des clientes, et des fois, ça finit pas très bien. Ben, faut faire attention. Et là, c'est un danger. L'avocat. Alors, il y a un problème, c'est quoi ? Je ne veux pas tomber sur l'avocat, Chassé Shalom, d'accord, il y a des bons avocats aussi, mais le rabbin Sam Abacho, il dit à l'époque, il dit, c'est quoi un avocat ? Un menteur. Plus tu sais mieux mentir, mais tu étais un meilleur avocat. Il sait maintenant, alors c'est pas tout fait comme ça, juste avocat, ils étaient un peu choqués les pauvres. Ça veut dire, tu vas prendre la loi, tu vas commencer. Alors tant que ça reste dans l'honnêteté, par exemple, tu fais des contrats d'achat-vente, il n'y a aucun problème. Dès que ça devient maintenant, tu fais du barreau, là ça devient un peu compliqué. Parce que tu prends des dossiers des fois, tu vas défendre des cas qui sont vraiment des menteurs, des magouilleurs, et tu les défends. Plus que cela, même si maintenant tu es super honnête dans ta démarche, il y a une interdiction de juger un juif avec les lois non-juives, que ce soit françaises, anglaises, américaines ou israéliennes modernes, d'accord, qui ne sont pas des lois juives. Le droit israélien est basé sur un droit mélange de droit anglais, ottoman et des inventions du bagage de la haute cour suprême israélienne, très gauchiste, d'accord ? C'est pas du tout thoraïque. Maintenant, on va dire qu'il y a un problème entre deux personnes, et la justice, le droit israélien, tranche ainsi. Mais contrairement à ce que dit la Torah, si tu juges ou tu aides à juger dans ce sens-là, tu as participé à un vol. On prend de l'argent à une personne de façon non équitable, non juste après la Torah, et on la donne à quelqu'un d'autre. C'est du vol, donc c'est interdit, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave.
Il n'y a pas ça tous les jours, hein?
Alors, qu'est-ce qu'il y a ici en Israël, ou aussi en France aujourd'hui, il y a des tribunaux rabbiniques. Alors, le problème, c'est que le tribunal rabbinique, alors si on est entre deux personnes qui ont la crainte de Dieu, alors on comprend qu'on ne doit pas mettre. Si tu as un non-religieux, il dit, qu'est-ce que tu mets le tribunal rabbinique ? Ça n'a absolument rien à faire. Dans ce cas-là, les tribunaux rabbiniques, des fois, ont des autorisations d'aller se faire juger, parce qu'on va avoir un carotte, donc dans les tribunaux non religieux. Mais tout ça doit passer par l'autorisation d'un tribunal rabbinique.
La finalité, elle est la même, non, sur un tribunal rabbinique, dans
Mais la loi sera différente. La loi sera différente.
Ah, mais au Bédjin, dans du Médamidage, etc., aussi contourner les lois pour ne pas rendre coupable une personne, une adulte.
Si c'est ça d'Israël, d'après la Torah, font ce que tu appelles un contournement, alors ça va. C'est pas un contournement, c'est pas de contournement. Si maintenant il y avait un cas, par exemple, il y a eu un cas dans l'histoire juive dont on parle dans la Gemara. Bon, pas faire toute l'histoire en deux mots. Bon, il y avait un rabbin qui s'appelle Rabbi Shimon ben Shattar. Je raconte toute l'histoire, elle est sympa. Un jour, un sage israélien est décédé et eu son enterrement. Et aussi une crapule qui est décédée et aussi son enterrement. Les deux enterrements ont eu en même temps. Et tout à coup, il y a une troupe de goïms qui sont venus les attaquer. Tout le monde est parti en courant, en laissant les deux corps. Bon, après que la troupe est partie, ils sont tous revenus, puis ils sont trompés. Et l'élève du sage, lui, il était resté, il s'est caché, il dit « Non, c'est celui-là, c'est lui, c'est la crapule. » Et personne n'a écouté, alors ils ont fait leur raison funèbre extraordinaire sur la crapule, et le sage, ils l'ont jeté comme une crapule dans la tombe. Ah, ils s'en est pas remis. Et la nuit, le sage vient en rêve et lui dit, sache que c'était une capara, c'était une expiation, parce qu'une fois j'ai entendu qu'on parlait mal sur un sadique, je n'ai pas réagi. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui entend du mal sur les sages d'Israël et ne réagissent pas? Alors il a vu qu'il y avait quelqu'un qui se trouvait dans la porte de l'enfer. Alors la porte, comment elle est faite? Il y a la porte, et puis elle a une sorte de... À l'époque, c'était comme ça. Il y avait une sorte de partie qui sortait, et elle tournait comme ça. Alors, cette partie-là, elle est enfoncée dans l'oreille du type. Je crois que quelqu'un rentrait, clink, clink, dans son oreille, d'accord? Alors, il lui a demandé, mais jusqu'à quand tu restes là-bas? Il lui a dit, jusqu'à ce que vienne me remplacer Shimon ben Shattar. Shimon ben Shattar, c'était le grand de la génération. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a dit, il y a 70 sorcières à Ashkelon, et il les laisse faire ce qu'elles veulent. Et lui, c'est le responsable de la génération. Il doit gérer le problème. Le lendemain matin, l'élève se lève, il voit Rabbi Shmuel, lui raconte l'histoire. C'est comme ça, ok, il faut vraiment que je m'en occupe. Il a pris 70 beaux gosses qu'il a trouvés, et il leur a dit, vous prenez maintenant des talitotes, vous les mettez dans des jarres, et vous mettez près de la grotte où elles se rencontrent les 70 sorcières. Ils rentrent tout à coup dans leur réunion, et voilà, le rabbin venir comme ça, et qui est tout, moi je suis un grand sorcier. Ah ouais, quel tour tu peux nous faire? Si vous voulez maintenant, voilà, il y a un orage dehors, il s'est mis à pleuvoir, je vous fais rentrer maintenant, je claque des doigts, il y a 70 beaux gosses qui vont rentrer maintenant, chacun avec un talit complètement sec, alors qu'il pleut des cordes à l'extérieur. Ah, on veut voir, il fait comme ça, tac, ils rentrent tous avec leur talit sec, et chacun soulève la sorcière. Les sorcières, elles ont du pouvoir tant que les pieds tiennent la terre. Dès que les pieds touchent la terre, dès qu'elles sont dans les airs, elles n'ont plus aucun pouvoir. Et comme ça, ils les ont attrapés et ils les ont jugés. La famille de certaines de ces sorcières-là a voulu se venger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un faux témoignage sur le fils de Rabbi Shimon ben Shattar, comme quoi il aurait fait un chilou Shabbat, il a transgressé le Shabbat. On l'a vu, Shabbat, faire du feu. Et certains, ils ont fait un faux témoignage et le fils de Rabbi Shimon ben Shattar a été exécuté. À tort. C'est pour ça que dans le Pirkei Avot, dans les Maximes de Père, Shmuel Mishalchi dit, faites attention de bien vérifier les témoins, de bien faire un interrogatoire qui soit serré. Donc, si quelqu'un vient maintenant faire un faux témoignage, et même on sait maintenant que c'est un... On n'arrive pas à le contrecarrer, la loi est la loi, on est obligé d'agir ainsi. Donc c'est pas forcément qu'on peut aller contourner la loi comme tu veux, on contourne comme ça. On essaye de trouver des circonstances. C'est vrai que dans tous les cas de peine capitale, alors les sages d'Israël essaient au Sanhedrin de tout faire pour ne pas prononcer une peine capitale. Le Talmud dit qu'un Sanhedrin qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme un Sanhedrin meurtrier. Et Rabbi Akiva dit, si moi j'avais été au Sanhedrin, il n'y aurait jamais eu de peine capitale. Rabbi Shimon lui a dit, heureusement que tu n'y es pas, parce que sinon tu aurais multiplié les assassins dans Israël. Parce qu'il faut quand même que les anges sachent qu'il y a une... qui est possible. Donc en deux mots, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est qu'on peut comme ça contourner la loi. C'est pour répondre à ta question. Alors de quoi on parlait maintenant? Donc la réussite dans la vie.
Mais pas tous voués aussi à étudier la Torah.
Je suis d'accord, j'ai pas dit ça. Mais maintenant, tu dois choisir quel métier tu vas faire. Alors, quels seront les critères que tu dois prendre en considération en tant que juif? Alors, on ne dit pas que c'est mauvais de gagner de l'argent, d'accord? On n'est pas contre, mais ce n'est pas un critère important. Pour nous, le critère important qui passe au-dessus de tout, d'abord, sois honnête, sois compatible avec la Torah, comme je dis, par exemple, un avocat qui va faire du droit, c'est un problème, avec des juifs en tout cas, que ça te laisse du temps pour l'étude. Le but, c'est l'étude. Maintenant, je ne peux pas faire qu'étudier. Il y en a qui font qu'étudier. Bon, ça, c'est devenir Kollelman. Moi, je trouve que je ne peux pas faire ça. Ok, alors je vais faire un métier. Maintenant, je veux être inscrit dans le meilleur moyen de me réaliser d'après ce que Dieu veut. Donc, je vais faire un métier qui me permet, un, de vivre en tant que juif, pas en porte-à-faux par rapport à ce que dit la Torah. Deuxièmement, pouvoir libérer le maximum de temps pour l'étude de la Torah, qui est l'essentiel du pourquoi de ma vie. Et c'est ça, les vrais critères. C'est vrai que je recommande aux gens aujourd'hui de faire des métiers simples. Plombier, électricien, réparateur de frigo, c'est génial. Pourquoi? C'est très rapide pour étudier, ça gagne bien, c'est tout à fait honnête, d'accord? Tu gagnes le temps que tu veux, tu travailles le temps que tu veux, tu n'as personne qui te casse la tête. Si tu es honnête rapidement, tu as une bonne clientèle parce que tu apprécies, parce qu'il y a beaucoup de gens malhonnêtes dans ce métier-là, donc toi tu es honnête, donc tu es reconnu, c'est génial. Ah bon, tu n'es pas avocat dans la Mercedes, tu n'es pas médecin, machin, non, mais tu es un plombier. Alors, les gens n'aiment pas ça, parce que ça manque de... c'est pas fast, d'accord? C'est pas super honorifique.
Ah,
mais tu réalises ton but de la meilleure façon. D'autres questions à rapport à ce sujet, messieurs ?
Oui, un petit rapport. C'est qu'à un moment, vous avez dit, voilà, depuis la bénédiction d'Adam Arishon, justement, on est tous obligés de travailler, etc.
Oui.
Mais alors, j'ai pensé, durant le premier et le deuxième temps, durant cette ère-là, est-ce qu'à ce moment-là aussi, ils étaient obligés de travailler pour survivre à leurs
besoins ? Oui, on n'est pas sortis de la malédiction. Tant qu'il y a le mal qui existe dans le monde, tant qu'il n'y a pas le tikkun total, la réparation totale du péché originel, alors on est sous cette emprise-là. Il y a eu des périodes, par exemple, Bnei Israël dans le désert. Ils mangeaient la manne. Ça tombe du ciel. À l'époque messianique, ça reviendra, il y aura la même chose aussi, on n'aura plus aucun problème, aucun souci. Normalement, il y a un avis qui dit que non, mais bon, normalement, il n'y aura plus de souci de parler à ça, Bezrat Hashem. À l'époque où il y avait une grande spiritualité dans le peuple d'Israël, alors il y avait une grande opulence aussi, une richesse, et c'était facile. C'est proportionnel. Tu comprends, c'est proportionnel. Mais il n'y a jamais eu d'époque, à part les 40 ans dans le désert, où on était vraiment complètement libéré de cette malédiction du premier homme. Ça sera pour très bientôt dans ta chambre, on espère encore cette année.
Ça veut dire que c'était pas le même. Enfin, le troisième temple, il va être beaucoup plus bénéfique pour nous. C'était quoi alors
Tu me lances sur le sujet. Le troisième temple, mon cher ami, c'est l'époque messianique. Machar, il vient, il égorge le Yetzer Hara. Il n'y a plus de mal. On prend le serpent, clic.
Pourquoi ça n'était pas passé durant les deux heures des deux anciens temps ?
Parce que c'était pas l'époque messianique.
C'était Ben Géoula, là.
C'est pas lui. Non, absolument pas. Si Moshe Rabbeinu, si Bnei Israël n'avait pas péché dans le désert, Moshe Rabbeinu serait rentré en terre d'Israël, alors ça aurait été le Messie. Il y aurait eu le troisième temple en premier. Il y aurait un temple qui aurait été éternel pour toujours, c'était fini. Le tikkun était terminé. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'il y a eu la construction du deuxième temple, Ezra est venu de Babylonie, avec 42 000 personnes pour construire le deuxième temple. Et il a dit aux Yéménites, qui étaient partis en exil au Yémen, revenez. Il dit, on ne vient pas. Pourquoi ? On sait très bien que ce temple-là, il n'est pas définitif, il va être détruit. Alors pourquoi venir pour encore construire une destruction ? On reste au Yémen. Et alors ils ont maudit. Je ne sais plus quelle malédiction. Et eux aussi, ils l'ont maudit. D'accord ?
Ils sont restés maintenant, ils n'ont pas les mêmes lois que nous, parce que justement, ils sont restés sous le premier temple. Il y a des choses que nous, on est forcés de faire.
Non, les Ménites, ils ont pris... Il y a deux sortes d'abord. Il y a les Baladim et les... J'ai oublié, il y a deux noms. Baladim et Shamim. C'est deux sortes de régions. Il y a une qui ont pris sur eux les décisions du Rambam, Maïmonide, de A à Z. Et les autres, non, qui ont reconnu le Shulchan Aruch. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec cela. Donc déjà, à l'époque Maïmonide, c'est beaucoup plus récent. Donc eux ne sont pas rentrés pour la construction du deuxième temple. Et là, ils sont revenus parce qu'on est proche. On est proche de la construction du troisième temple qui sera définitive. Baruch Adonai, Amen.